Toi, Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 11 juillet 2023, Le Monde aujourd'hui. L'Ukraine et la Suède au cœur des discussions du sommet de l'OTAN qui s'ouvre aujourd'hui à Vilnius en Lituanie.
La position du gouvernement américain est que l'Ukraine a toujours quelques réformes à entreprendre avant qu'il soit prêt à entrer dans l'Alliance.
Johann Sponsis, porte-parole du département d'État américain, nous en dira davantage dans la partie magazine. Le début de la tournée africaine du président iranien au Kenya a été reporté à demain mercredi. L'élection présidentielle à Madagascar se déroulera en fin d'année pour reconduire le chef de l'État actuel, André Rajoel, ou lui choisir un successeur. Amnesty International exhorte les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre à lutter contre la corruption. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les dirigeants des pays membres de l'OTAN sont réunis en sommet à Vilnius. Ils ont convenu d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance quand les conditions seront réunies, a affirmé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Jacques Aristide nous en dit plus.
Volodymyr Zelensky condamne les hésitations de l'OTAN qui peine à trouver une formulation sur la future adhésion de Kiev à l'Alliance Atlantique. Il semble qu'il n'y ait aucune volonté ni de donner à l'Ukraine une invitation à l'OTAN ni d'en faire un membre de l'Alliance, écrit-il dans un tweet très virulent publié aujourd'hui. Jugeant absurde que son pays n'ait pas de calendrier d'adhésion, il est d'avis que cela encourage Moscou à continuer sa terreur en Ukraine. L'indécision est une faiblesse, affirme le président Zelensky. Pour sa part, le Kremlin dit suivre de très près cette réunion de l'OTAN. Il s'agit sans ambiguïté d'un sommet qui a un caractère anti-russe fortement prononcé. La Russie est perçue comme un ennemi, un adversaire, et c'est dans cette optique que les pourparlers se dérouleront, déclare Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe Vladimir Poutine. Moscou dénonce également la livraison par Paris de missiles longue portée à l'Ukraine, annoncée aujourd'hui par le chef de l'État français Emmanuel Macron au premier jour du sommet en Lituanie. De notre point de vue, c'est une décision entachée d'erreurs, lourde de conséquences pour la partie ukrainienne, car naturellement, cela va nous contraindre à prendre des contre-mesures, affirme Dmitri Peskov.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné hier son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'OTAN après 14 mois d'attente. Cette décision soutenue par la Hongrie va élargir l'Alliance Atlantique. Le point avec Nani Telani.
Je suis heureux d'annoncer que le président Erdogan a accepté de transmettre le protocole d'adhésion de la Suède à la Grande Assemblée nationale turque dès que possible et travailler en étroite collaboration pour en assurer la ratification, a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Il n'a pas donné une date à laquelle cette adhésion sera ratifiée par le Parlement turc. Puis la candidature suédoise devra être approuvée par tous les membres de l'OTAN. La décision de Recep Tayyip Erdogan est un revirement car il avait posé d'autres conditions à l'entrée de la Suède. Ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et ensuite nous ouvrirons la voie à la Suède, a-t-il lancé hier, reprochant aussi à Stockholm sa mansuétude présumée envers les militants kurdes. Pour les experts, ce revirement est motivé par la santé fragile de l'économie de la Turquie qui veut renforcer ses relations avec l'Europe. D'autres estiment que ce changement de discours n'est peut-être que temporaire, car Erdogan est aussi un allié de Moscou.
La Russie a lancé aux premières heures de la journée de ce mardi une attaque aérienne contre Kiev, Odessa et la région de Kherson à quelques heures de l'ouverture en Lituanie d'un sommet de l'OTAN qui aura été très largement consacré au conflit en Ukraine. 26 drones de fabrication iranienne sur les 28 lancés par Moscou ont été abattus avant de pouvoir s'abattre sur Kiev, ont dit les autorités ukrainiennes. Dans la région d'Odessa, 22 ont été détruits, mais deux autres ont touché un bâtiment administratif de la ville. Les membres de l'OTAN se sont dit sérieusement préoccupés par des activités malveillantes de l'Iran au sein du territoire de l'Alliance et ont appelé Téhéran à cesser de fournir un soutien militaire, dont des drones à la Russie. Nous appelons l'Iran à cesser son soutien militaire à Moscou, en particulier le transfert d'engins aériens sans pilote qui ont été employés pour attaquer des infrastructures stratégiques, causant des pertes civiles étendues, ont déclaré les 31 membres de l'Alliance occidentale dans leur déclaration du sommet de Vilnius. Après un veto russe, le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué aujourd'hui à prolonger le mécanisme d'aide humanitaire transfrontalier vers la Syrie, interrompant une voie de passage vitale pour des millions d'habitants de zones rebelles du pays. Les 15 membres du Conseil tentaient depuis des jours de trouver un compromis pour étendre ce mécanisme qui permet d'acheminer depuis la Turquie, sans autorisation de Damas, nourriture, eau ou médicaments aux habitants du nord-ouest de la Syrie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président iranien Ibrahim Raisi va entamer demain au Kenya sa tournée africaine après un report d'un jour annoncé par le gouvernement kenyan. Dilidiko.
Cette rare visite iranienne dans trois pays africains, le Kenya, l'Ouganda et le Zimbabwe, est une nouvelle étape dans l'offensive diplomatique lancée par l'Iran. Le déplacement de trois jours sera une première pour un président iranien en Afrique depuis 11 ans. L'arrivée d'Ebrahim Raisi a été reportée d'un jour pour permettre la finalisation de protocoles d'accord selon les autorités kenyanes. Demain, M. Raisi doit rencontrer son homologue kenyan William Ruto. Ensuite, il va se rendre en Ouganda pour deux jours et terminer son séjour au Zimbabwe. Pour l'Iran, ce voyage est un nouveau point de départ avec les pays africains désireux de développer les relations économiques et commerciales. Téhéran a renforcé ses liens avec la Russie et la Chine. L'Iran a aussi rétabli ses relations avec l'Arabie saoudite, sa grande rivale au Proche-Orient. Cependant, les relations restent tendues avec l'Occident à cause de son programme nucléaire.
Le gouvernement malgache a convoqué ce mardi les électeurs aux urnes en novembre et décembre pour choisir son prochain président. Le sortant Andre Rajoel est candidat à sa propre succession. Eric Manirakiza.
Le bureau du Premier ministre indique que les électeurs sont convoqués aux urnes le 9 novembre pour le premier tour de l'élection présidentielle et le 20 décembre pour un second tour éventuel. Cette annonce ne fait qu'entériner la proposition de date formulée par la Commission électorale nationale indépendante. Le Premier ministre lance aussi un appel à l'apaisement et au respect mutuel dans le cadre de ce processus électoral. Dans l'opposition, seul l'ancien chef d'État Marc Ravalomanane, renversé lors d'un coup d'État fomenté en 2008 par Andry Rajoel, a officiellement annoncé sa candidature à la présidence du pays. Le contexte est tendu sur la Grande Île en raison d'une polémique sur la double nationalité française et malgache du président Andry Rajoel. Ayant été naturalisé français en catimini en 2014, Andry Rajoel perdrait sa nationalité malgache conformément au code de la nationalité malgache. Sans sa nationalité malgache, il ne pourra ni diriger le pays ni se porter candidat à une élection. Mais cette version des faits est vigoureusement contesté par le parti présidentiel.
Au Mali, l'animateur de radio-télé Mohamed Youssouf Batili, dit Ras Bat, a été relaxé ce mardi d'un chef d'accusation, mais reste en prison en raison d'une procédure toujours en cours. M. Batili était jugé pour avoir déclaré en mars que l'ex-premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga n'est pas mort, il a été assassiné. Il avait ensuite été inculpé et écroué le 13 mars. À l'approche du référendum pour une nouvelle constitution en République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a remis le projet du texte à la Direction nationale de la campagne référendaire. Cet organe est chargé de publier la nouvelle constitution. Le nouveau texte devrait permettre au président Touadéra de briguer un troisième mandat. Au lieu de deux mandats de cinq ans, le mandat présidentiel passera à sept ans sans restriction. Le référendum pour une nouvelle constitution aura lieu le 30 juillet prochain. La campagne débute le 15 juillet 2023 et prendra fin le 28 juillet prochain. Et puis, Centrafrique toujours, le secrétaire général de l'ONU a condamné fermement aujourd'hui l'attaque menée par des éléments armés lundi contre une patrouille de la MINUSCA sur l'axe Samwanja-Ouada dans la préfecture de la Haute-Koto au nord-est de la République centrafricaine qui a entraîné la mort d'un soldat de la paix rwandais, Antonio Guterres a appelé les autorités de la République centrafricaine à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque et les traduire rapidement en justice. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
L'ancien ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang, sera remis cette semaine au FBI en vue d'être extradé vers les États-Unis, a annoncé la police d'Afrique du Sud, où il est détenu à la demande de Washington en raison du scandale de la dette cachée. Celle-ci est liée à l'emprunt illégal par des entreprises publiques mozambicaines de 2 milliards de dollars auprès de banques internationales pour un projet de pêche que M. Chang avait signé. Il est accusé d'avoir ensuite utilisé le système financier américain pour détourner une partie importante des prêts, déclenchant un défaut de paiement de la dette de Maputo et un effondrement de sa monnaie. Kampala recherche de nouveaux fonds pour sa future raffinerie de pétrole brut après l'échec des négociations avec un consortium comprenant la société américaine Baker Hughes en raison de son incapacité à mobiliser des financements à temps, a déclaré son ministère de l'Énergie et des Mines. La raffinerie de 60 000 barils par jour coûterait entre 3 et 4 milliards de dollars et aiderait l'Ouganda à traiter ses réserves de brut qu'il espère commencer à produire en 2025. Pour terminer, l'approvisionnement en métaux et minerais nécessaires à la transition énergétique, dont la demande explose, demeure un défi avec de nombreuses incertitudes, met en garde l'Agence internationale de l'énergie qui appelle ce mardi à redoubler d'efforts pour sécuriser les approvisionnements. Compte tenu d'une flambée de la demande, le marché global de ces minerais indispensables à la production de batteries, d'éoliennes et autres panneaux solaires a atteint en 2022 quelque 320 milliards de dollars selon l'agence.
Vous suivez VOA Afrique. Nanit Alani reste avec nous en studio pour le sport. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique aura lieu ce jeudi 13 juillet à Abidjan.
Exactement, ce sera à 19h temps universel, quelques heures après la 45e Assemblée ordinaire de la CAF, qui se tiendra aussi dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les associations membres de la CAF seront divisées en 9 groupes de 4. Les premiers de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les 4 meilleurs deuxièmes des groupes joueront un tournoi de barrage de la CAF et le gagnant de ce tournoi va participer à un autre tournoi de barrage de la FIFA afin de composer ou non son ticket pour le mondial.
Le Zimbabwe se félicite de la levée de sa suspension par la FIFA.
Et oui, un retour salué par le gouvernement zimbabwéen, content de voir sa fédération à la table du football mondial. Nos athlètes méritent d'avoir la chance de retrouver leur place et de vivre leurs rêves. Et c'est ce qu'ils vont faire, a déclaré Kirsty Coventry, la ministre des Sports. La FIFA avait banni le Zimbabwe du foot mondial et de ses compétitions en février 2022 à cause de l'ingérence d'une commission gouvernementale dans la gestion des affaires footballistiques de ce pays. Et le gouvernement souhaitait suspendre le conseil d'administration de la Fédération zimbabwéenne de football en raison justement de plusieurs accusations, notamment de corruption, de fraude et d'abus sexuels supposés. Mais la FIFA a finalement levé cette suspension 2 jours seulement avant le tirage au sort des qualifications africaines pour la prochaine Coupe du Monde au Canada. Et signalons que l'instance mondiale a ordonné la nomination d'un comité de normalisation pour diriger la ZIFA jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.
L'athlète sud-africaine Caster Semenya gagne devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Yep, c'est vraiment une grande victoire. Empêchée de participer à certaines courses parce qu'elle refuse un traitement pour faire baisser son taux de testostérone, la Sud-Africaine a remporté une bataille judiciaire contre la Suisse. La Cour européenne des droits de l'homme estime que Caster Semenya est victime de discrimination. La justice helvète avait confirmé en 2020 une décision du tribunal arbitral du sport.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les membres de l'OTAN sont réunis à Vilnius, en Lituanie, cherchant à surmonter les divisions sur la candidature de l'Ukraine. Ils ont aussi finalisé la réflexion sur l'adhésion de la Suède à l'alliance militaire après un accord visant à lever le blocage de la Turquie. Pour une analyse, Nani Talani a joint le porte-parole du département d'État américain, Juan Schmonsis, qui prend part au sommet de Vilnius en Lituanie.
L'adhésion de la Suède renforce l'alliance. La Suède est un partenaire fort qui possède des capacités importantes de défense et c'est un pays qui se situe dans une région stratégique et cruciale pour les concernes de l'Alliance.
Alors, il y a aussi l'Ukraine qui fait une pression pour entrer dans l'Alliance Atlantique. Et quelle est la position de Washington?
Le processus d'adhésion de n'importe quel pays dans l'OTAN est un processus qui comprend des concerns de plusieurs membres, des États membres de l'Alliance. Il y a un processus qui normalement doit se poursuivre. La position du gouvernement américain est que l'Ukraine a toujours quelques réformes à entreprendre avant qu'il soit prêt à entrer dans l'Alliance. Et il y a une autre concern aussi, qui est, comme le président a articulé récemment, que l'Ukraine, c'est un pays en guerre, actuellement en guerre. Nous prenons en très sérieux nos engagements sous l'article 5 de la Charte Atlantique. Et sous l'article 5, une attaque contre n'importe quel pays membre de l'Alliance, c'est une attaque contre tous les partenaires, tous les alliés. Et comme l'Ukraine est actuellement en guerre, l'adhésion immédiate de l'Ukraine représentera une escalation dans le conflit. Et c'est un conflit que les États-Unis souhaitent mettre fin.
Alors, pour terminer, que répond Washington face aux préoccupations de la Russie?
La Russie ne doit pas se préoccuper de l'Alliance l'OTAN parce que l'Alliance est de sa nature défensive. Si vous voyez la disposition des forces de l'Alliance et les armes de l'Alliance, c'est une alliance de nature défensive. Et aucun pays membre de l'OTAN ne souhaite entrer en guerre ou bien n'a aucune ambition sur territoriale sur n'importe quel autre pays. Et il faut se souvenir que c'est la Russie qui a lancé la guerre contre l'Ukraine. Il peut terminer à n'importe quel moment. Par contre, si l'Ukraine cesse à se défendre, ça veut dire que c'est la fin de l'Ukraine.
Johan Schmonsis, porte-parole du département d'État des États-Unis. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné lundi son feu vert à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Monsieur Erdogan bloquait cette entrée depuis mai 2022, reprochant notamment aux autorités suédoises leur mansuétude présumée envers les militants kurdes réfugiés sur leur sol. Pour une analyse, Mouhamadou Oumfa a joint Didier Billon. Il est le directeur adjoint de l'Institut français des relations internationales et stratégiques, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient.
La Turquie, depuis des mois déjà, accusait les autorités suédoises de protéger des militants, des réfugiés politiques qu'elle considérait comme des complices d'organisations terroristes. Et elle pensait notamment au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui est qualifiée d'organisation terroriste par la Turquie, mais aussi par l'Union européenne, par les États-Unis, par le Canada, et d'autre part, les gulenistes, c'est-à-dire ces militants d'une organisation dirigée par Fethullah Gulen, dont M. Erdogan considère que ce sont les responsables de la tentative de coup d'État organisée en juillet 2016 contre lui. Donc, elle considérait que la Suède devait d'abord faire la preuve qu'elle était engagée résolument dans la lutte antiterroriste pour qu'enfin la Turquie lève son veto à l'encontre de son entrée dans l'OTAN.
La Suède a-t-elle apporté ses garanties ou alors qu'est-ce qui explique le revirement, le volte-face du président Erdogan?
La Suède a apporté, il y a déjà plusieurs semaines, une partie de garantie, c'est-à-dire que, un, elle a modifié le texte constitutionnel suédois qui définit ce qu'est une organisation terroriste, et donc il y a là une avancée, puisque cette définition, qui a été votée en Suède, peut contenir le PKK et les sympathisants ou les militants de l'organisation de Fethullah Gulen. Donc, deuxième élément, on a constaté au cours des dernières semaines que deux militants réfugiés en Suède ont été expulsés de Suède vers la Turquie. La raison qui a été donnée par les Suédois, c'est que ces militants étaient des trafiquants de drogue, des trafiquants de stupéfiants. En réalité, nous savons parfaitement que ce sont des sympathisants ou des militants plutôt du PKK. Donc il y avait quand même la volonté de la Suède d'accéder à une partie des demandes de la Turquie plus loin. Et puis, la Turquie comprend bien qu'elle a tout intérêt aujourd'hui à être dans les meilleurs termes possibles avec l'OTAN et avec les membres de l'OTAN. Parce que l'OTAN, pour la Turquie, c'est la véritable garantie sécurité, l'assurance sécurité.
Cette affaire semble avoir montré l'importance de la Turquie en tant qu'acteur politique et diplomatique international. Que pensez-vous du rôle de la Turquie aujourd'hui au sein de l'OTAN et dans le monde en général ?
Oui, vous avez parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre qui est sorti il y a un an et demi maintenant. J'avais intitulé ce livre « La Turquie, virgule, un partenaire incontournable ». Au niveau économique, par exemple, la Turquie fait partie du G20. Donc en dépit de ses difficultés économiques actuelles qui sont réelles et très préoccupantes, elle n'empêche, elle fait toujours partie du G20. Au niveau géopolitique, dans la région du Moyen-Orient, du Caucase, de l'Asie centrale, région particulièrement instable géopolitiquement, eh bien la Turquie est un facteur d'ordre, incontestablement.
Didier Blion, directeur adjoint de l'IRIS en France. Human Rights Watch exhorte la Cour pénale internationale à enquêter sur les crimes de guerre au Darfour, au Soudan. Dans un rapport, l'ONG fait état de pillages, viols, exécutions sur base ethnique à Khartoum et au Darfour. Les combats se poursuivent malgré les appels à un cessez-le-feu inconditionnel et à une sortie de crise négociée. Yacouba Ouedraogo a joint à Paris Jean-Baptiste Galopin, expert à Human Rights Watch et co-auteur du rapport.
Le rapport que nous venons de sortir aujourd'hui est consacré à une attaque en particulier contre la ville de Mistéry, qui est une ville de l'état de Darfour occidental, près du Tchad, une ville d'environ 46 000 habitants, qui a été attaquée donc le 28 mai par une force conjointe de forces de soutien rapide, ainsi que de milices arabes qui ont combattu des combattants massalites qui étaient présents pour protéger la ville et qui ont tué un grand nombre d'hommes et tiré sur des civils de sans distinction au cours de cette journée. Les forces attaquantes sont notamment allées de maison en maison afin de trouver des hommes qu'ils ont exécutés sommairement. Ou alors ils ont également tiré sur des civils qui s'enfuyaient avant de piller la ville et de la brûler en l'espace de quelques jours, puisque les incendies ont continué dans les jours qui ont suivi. Le soir du 28 mai, les habitants de Mistéry ont enterré leurs morts et ils ont notamment enterré au moins 59 personnes dans une fosse commune. Et les autorités locales estiment que 97 résidents de Mistéry auraient été tués ce jour-là.
Mais justement, pourquoi cibler cette population de Mistéry?
Le Darfour occidental est une région qui a été un peu l'épicentre de cycle de violence depuis plusieurs décennies, hein, mais en particulier depuis 2019, dans un contexte où les forces de maintien de la paix de l'UNAMID, donc la force conjointe de l'Union africaine et de l'ONU, se sont retirées, laissant un vide en ce qui concerne la protection des civils. Et dans ce contexte, les communautés massalites qui avaient été victimes de nombreuses attaques répétées ont commencé à s'armer. Et donc, dans ce contexte, il y a eu de nombreuses vagues de violence qui ont eu lieu. Mais en ce qui concerne ces derniers événements au Darfour occidental, il y a un lien quand même assez clair avec le conflit à Khartoum, puisque les forces de l'armée qui étaient et de la police qui étaient déployées dans certaines villes et villages du Darfour occidental se sont retirées au début du conflit et s'y a laissé le champ libre donc aux attaques des milices arabes et des forces de soutien rapide. Nous appelons la Cour pénale internationale à enquêter sur cette attaque de Mystery dans le cadre de son enquête en cours sur le Darfour. Et nous appelons également le Conseil de sécurité à appeler les parties au conflit à accorder un accès humanitaire sans restriction et en toute sécurité, notamment au Darfour.
Jean-Baptiste Galopin, expert à Human Rights Watch. À l'occasion de la journée africaine de la lutte contre la corruption, l'ONG Amnesty International a sorti un rapport où elle appelle les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre à lutter contre la corruption et à cesser de persécuter les défenseurs des droits humains qui la dénoncent. Rosine Monizero s'est entretenue avec Liliane Moine, conseillère à Amnesty International.
La corruption est un phénomène mondial qui nie l'état de droit et impacte négativement sur la jouissance des droits humains, qu'ils soient individuels ou collectifs, garantis par les traités régionaux et internationaux. Nous constatons cependant que la corruption continue avec la même intensité en Afrique, et ce, dans un climat de restriction des droits humains et de l'espace public, ce qui limite la capacité des défenseurs des droits humains qui luttent contre la corruption à demander des comptes à des acteurs puissants au sujet de la corruption et des atteintes aux droits humains. Donc, nous avons pensé qu'il était important et nécessaire d'ailleurs d'attirer l'attention des citoyens africains, des États et des institutions africaines sur cette contradiction.
Dans votre rapport, vous demandez à ces États d'adopter des lois et des politiques et de mettre en œuvre des pratiques pour se protéger fermement contre la corruption. Est-ce que cela veut dire que ces lois n'existent pas dans ces pays ?
Déjà, il faut préciser que notre rapport porte sur 19 pays dont s'occupe le Bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans ces 19 pays, nous avons constaté que les autorités ont adopté des lois répressives pour restreindre l'exercice des droits fondamentaux et utiliser des lois qui existent déjà pour faire taire les voix critiques. Parallèlement, on se rend compte que les défenseurs des droits humains qui opèrent dans ces pays-là, qui essaient de combattre la corruption, sont confrontés à un manque de lois permettant de les protéger. Et donc, pour vous donner des chiffres concrets, parmi les 19 pays étudiés, il est fort de constater que seuls 3 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, ont adopté des lois sur la protection des défenseurs des droits humains. On observe qu'un seul pays, dont le Ghana, possède une loi visant spécifiquement à protéger les lanceurs et lanceuses d'alerte. Et 10 des 19 pays ont adopté des textes concernant l'accès à l'information qui permettraient à la fois aux défenseurs des droits humains, mais à tout citoyen, d'obtenir des informations détenues par des organismes publics et de demander des comptes. Bien sûr, cela ne veut pas dire que dans ces pays où on trouve ces lois, il y a une pleine jouissance des droits qui sont censés être protégés. Donc, on demande déjà à ces États qui ont fait le premier pas en adoptant des lois sur la protection des défenseurs de s'assurer que ces lois sont conformes aux normes régionales et internationales en matière de droits humains. Et bien sûr, à ces États qui ne les ont pas adoptées, on demande qu'ils adoptent ces lois, donc les lois sur la protection des défenseurs, les lois sur l'accès à l'information, afin de permettre ou de créer un environnement sûr, favorable, propice au travail que ces défenseurs des droits humains qui luttent contre la corruption, qui jouent un rôle légitime et important pour qu'ils puissent opérer sans peur de représailles.
Liliane Moine, conseillère à Amnesty International. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com.